Bonsoir et bienvenue à Amandla, votre émission hebdomadaire sur l'Afrique, les nouvelles, l'analyse. Et ce soir, nous vous présentons un entretien que Doug Miller a fait avec Mouloud Idir sur Bouchra Manaï, qui est devenue la toute première commissaire au Bureau de lutte contre le racisme et les discriminations systémiques à la ville de Montréal. Alors, c'est un développement très, très important et Doug et Mouloud regardent ça ensemble. Alors, c'est ça qu'on fait ce soir en français. And Helden in English, what's up for tonight?
Yes, thank you, Gwen, and welcome to Amandla, our weekly African current affairs program produced both in English and French on CKUT 90.3. And today we have the pleasure of listening to Doug rant, doing what he does best, about the COVID apartheid and the vaccines. And he will explain more, so I will leave it to Doug.
Alors, restez à l'écoute d'Amandla, ici à CKUT 90.3.
Avec moi, Mouloud Idir, ancien collaborateur de l'Amandla et ancien ami, camarade de conférences académiques à plusieurs reprises et aussi d'autres choses. Mouloud, On était très intéressés à voir le débat qui se présentait comme Bokra Manai, une autre ancienne collaboratrice de Amandla, était nommée commissaire de la Commission à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques par la ville de Montréal. D'abord, Mouloud, d'où est-ce que tu viens? C'est quoi votre rôle dans la vie maintenant? On se connaît depuis tellement long, mais je ne sais pas où tu es rendu maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Oui, merci mon cher Doc. Ça fait plaisir de te retrouver, de discuter avec toi de cette question. Moi, je travaille depuis une quinzaine d'années dans un organisme qui s'appelle le Centre Justice et Foi, qui est très connu au Québec pour une revue importante de justice sociale qui est publiée, qui s'appelle la revue Relations, qui existe en fait depuis 1941. Mais au Centre Justice et Foi, on a la revue Relations, mais on a aussi un secteur d'activité qui existe depuis les années 80, qui s'appelle Vivre Ensemble, et qui s'intéresse aux questions donc, de protection des réfugiés, d'immigration, les enjeux du racisme, tout ça, les questions du pluralisme de la société québécoise. Donc, dans le cadre de mon travail, mais aussi dans le cadre de mes convictions politiques et personnelles, qui ne sont pas seulement reliées au travail, ces questions-là du racisme m'intéressent beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là que je suis appelé donc, à la fois à réfléchir à ces questions. Au travail, donc, on est membre de plusieurs coalitions, concertations qui suivent ces enjeux de près. Et la question du racisme systémique, ça fait longtemps que différentes organisations de la société civile sont liées. Il y avait une table de concertation sur le racisme systémique qui a été mise sur le pied à l'époque où les libéraux de Philippe Couillard étaient au pouvoir, à l'époque de Madame Kathleen Veil à l'immigration. Il y avait déjà quelque chose qui avait été proposé comme une sorte de commission d'enquête sur le racisme systémique. Finalement, les libéraux, ensuite, ils ont reculé sur la question. Donc, ça vient de loin. Les organisations de la société civile sont mobilisées là-dessus depuis longtemps, dans le contexte, bien entendu, de la lutte à l'islamophobie, les interpellations policières. Au départ, c'était surtout ça, les interpellations policières, la négrophobie, le racisme que vivent surtout les communautés noires. Bien entendu aussi le racisme plus que systémique, hein, qui découle de la logique coloniale dans laquelle s'insère l'État québécois à l'égard des Autochtones, donc les premiers peuples et les premières
nations. Oui. Donc, on a vu ça bien clairement le mois de septembre.
Et tous ces groupes-là, donc, tous ces groupes-là se sont solidarisés. Il y a des concertations, il y a des liens qui existent. Il y a beaucoup de liens organiques. On va parler un peu comme Gramsci. On essaye de faire un travail hégémonique dans la société québécoise sur cette question. On n'est pas encore capable, donc, de faire shifter l'opinion publique majoritaire du groupe majoritaire francophone parce que le récit nationaliste est très dominant à cause du parti politique au pouvoir actuellement. Mais les choses changent et le rapport de force est en train de changer pour toutes sortes de raisons que tu connais, géopolitiques, qui ne sont pas juste des raisons locales québécoises. Mais il y a une espèce de shift géopolitique à l'échelle mondiale qui fait que même au Canada et au Québec, les élites politiques et les classes dominantes, ils vont être obligés aujourd'hui de faire des choses sur la question du racisme. Et nous voulons que les choses qu'ils vont être obligés de faire soient des choses vraiment antisystémiques et structurantes et pas seulement de la diversité libérale cosmétique. Nous ne voulons pas un capitalisme racial libéral. Nous voulons nous saisir de la question du racisme pour transformer les conditions matérielles de production du racisme. Pas juste changer les personnes, mais changer structurellement le système qui le produit.
Parfait. Merci beaucoup. Et puis, comment ça se fait que Valérie Plante, puis sa partie, le projet Montréal, a créé la Commission à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques? D'où ça vient de sa part?
Oui, alors, Doc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 ans, un peu plus peut-être, je ne me rappelle pas la date exacte, il y a eu quelque chose qui existe d'un groupe qui s'appelle Montréal en action, dirigé par un ancien joueur de football, mais qui est un activiste respectable, qui s'appelle Ballarama Holness, qui avait mobiliser un principe au niveau des institutions municipales qui s'appelle le droit d'initiative. Et quand tu mobilises ce principe de droit d'initiative, tu appelles l'Office de la consultation publique de Montréal, donc c'est une structure de consultation consultative qui existe à l'échelle des structures municipales. Et donc, en nom de ce droit d'initiative, la ville de Montréal, les autorités municipales, étaient obligées d'appeler l'OCPM, l'Office de la consultation publique de Montréal, a organisé une consultation publique sur cette question-là, donc du racisme systémique. Donc, c'est une mobilisation qui a été initiée à la fois donc par Montréal en action, mais aussi à cause de la mobilisation plus large à l'échelle de la société qui existe et qui a fait en sorte que Mme Plante a été obligée d'organiser une consultation sur le racisme systémique. Moi, je pense que c'est une initiative subtile de la part de Mme Plante. Elle ne voulait pas que la charge de la responsabilité d'une prise de position sur le racisme systémique, ça vient d'elle. Elle voulait que ça découle d'un processus institutionnel pour ne pas, elle, avoir la responsabilité première de mettre sur pied cette initiative. Donc, il y a eu une dimension procédurale pour faire en sorte que le commissaire vienne suite à la consultation et à l'office de consultation publique. Donc, une fois que la consultation publique de l'OCPM est terminée, les commissaires de l'OCPM ont remis un rapport et suite à la remise de ce rapport il y a quelques mois, la mairesse de Montréal a créé le poste de commissaire et le poste de commissaire donc a été donné à Bouchra Manaï, qui est une géographe docteur en études urbaines, formé à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal, donc l'INRS, dont les locaux sont sur Saint-Denis et Sherbrooke. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le processus.
Bien, est-ce que la création de la commission de la part de Valérie Plante, est-ce que ça accepte que ça existe, les discriminations systémiques de sa part? Et est-ce que ce n'est pas une percée dans la négation de ce phénomène dans le milieu élite québécoise?
Bon, ça dépend des échelons. Ça dépend à quelle structure de pouvoir on discute. Je pense que le fait que la Ville de Montréal a organisé cette consultation publique, le fait que Mme Plante, comme mairesse de Montréal, a mis sur pied ce poste de commissaire, c'est donc la reconnaissance implicite et officielle de l'existence de ce phénomène. Je pense que les récents événements, les récents exemples, que ce soit Joyce Echaquan et beaucoup d'autres, montrent clairement que, en ce qui concerne surtout les Autochtones, il n'y a aucun doute là-dessus. En ce qui concerne également les communautés noires, il n'y a aucun doute également. On le voit avec l'incarcération, on le voit avec les violences policières. Il y a des rapports et des études très sérieuses qui sortent et qui montrent la question du profilage policier, du profilage racial. Le racisme qui est plus difficile à faire valoir dans le débat public, c'est la question de l'islamophobie. Mais bien entendu, l'islamophobie, elle existe bel et bien. La dimension raciste de ce phénomène existe, au Québec également, même de façon indirecte, hein, même la question de la discrimination indirecte, elle existe également à travers les récents projets de loi. Donc, ce qu'il faut, pour répondre de façon rigoureuse à ta question, disons que Valérie Plante, en créant le poste de commissaire, elle reconnaît l'existence du phénomène du racisme systémique sans le dire. Mais le problème de Mme Plante, c'est qu'elle, qui est sensible à cette question ou qui n'a pas le choix de toute façon si elle veut être réélue, elle a un problème parce qu'elle doit composer avec un gouvernement provincial qui, lui, est nationaliste et ne veut pas reconnaître ça. Donc, il y a une espèce de contradiction entre les structures de gouvernement fait que Bouchra Manaï dans son...
Explique pourquoi les nationalistes sont tellement anti-systémiques, discrimination systémique. Ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Ça devrait être quelque chose de très fondamental à leur croyance. Là.
Moi, je ne dirais pas les nationalistes, mais je comprends ce que tu veux dire. Je dirais certains segments du nationalisme québécois. Il y a quelques exceptions du nationalisme québécois qui reconnaît la dimension systémique du racisme. On le voit dans les prises de position. Dans les tables de concertation qui existent, donc, il y a des syndicalistes, il y a des syndicats là-dedans, il y a des organisations de la société civile québécoise. Et puis, il y a des intellectuels québécois qui sont fondamentalement nationalistes et qui reconnaissent la dimension du racisme systémique. La difficulté, les organisations de la société civile progressiste nationaliste, il y en a qui reconnaissent la question du racisme systémique. La difficulté, c'est au niveau des élites au pouvoir, les élites médiatiques surtout, beaucoup de journalistes, les éditorialistes de la plupart des... On va dire la vérité. Hein?
C'est quasiment universel.
Les éditorialistes du Devoir, il n'y a pas de reconnaissance réelle du racisme systémique, à part quelques exceptions et quelques chroniqueurs, mais la ligne éditoriale ne reconnaît pas. Ensuite, maintenant, tout ça découle de l'orientation idéologique très néoconservatrice du nationalisme québécois depuis, on va dire depuis le moment où l'ADQ est devenue l'opposition et que le PQ est passé en deuxième opposition au Québec, il y a eu véritablement un tournant néoconservateur du PQ, donc du nationalisme québécois. Et ce tournant à droite identitaire remonte un peu à la crise des accommodements raisonnables. Il y a eu déjà un tournant à droite sur le plan économique du nationalisme québécois que tu connais très bien à partir des années 90, le sommet socio-économique de 90, l'idéologie du déficit zéro. Pendant longtemps, on avait un shift vers la droite néolibérale du nationalisme, du PQ par exemple. On n'avait pas encore le shift à droite sur le plan identitaire. Le shift à droite, il est venu plus tard. Donc, à partir du 11 septembre 2001, à partir des accommodements raisonnables. Et maintenant, pour répondre directement à ta question, Doug, si les élites nationalistes reconnaissent la dimension systémique du racisme, je pense que c'est tout le récit nationaliste qui présente le Québec comme une victime, les Canadiens français comme une victime du colonialisme britannique. Ce récit-là ne tient pas, parce que ça montrerait véritablement que les Canadiens français... Et il y a une part de colonialité également dans leur présence en Amérique, à la fois à travers les autochtones et dans le cadre du Québec postcolonial aujourd'hui, il y a aussi des discriminations que la majorité canadienne française exerce à l'égard de minorités qui viennent surtout des minorités qui sont non eurodescendantes, si tu veux, des minorités non blanches et racisées, tout ça. Donc la réponse directe à ta question, pour aller très vite, je m'excuse de prendre beaucoup de temps, c'est parce qu'en reconnaissant le racisme systémique, les bases idéologiques du nationalisme québécois et du narrative nationaliste vont tomber brique par brique.
OK, parfait. Donc, c'est qui Bokra, tu as dit qu'elle est géographe, etc. Pourquoi est-ce qu'elle est un bon candidat pour le poste actuel là?
Ben, écoute, moi, je ne suis pas dans la ressource humaine, donc hein, il ne faut pas me poser la question.
Tu le connais très bien comme moi.
Oui, c'est une amie, c'est une camarade, c'est une amie très, très chère. C'est presque une sœur pour moi, Bokra. Mais c'est une fille pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Elle est très compétente. Pourquoi elle dérange? Elle dérange tout simplement à cause de ses prises de position sur le projet de loi 21, parce que je pense, pour toutes sortes de raisons, je pense que le gouvernement de François Legault, qui a présenté le récent projet de loi 21, là, ça ne l'arrange pas qu'il y ait un commissaire au racisme systémique qui a des positions publiques contre le projet de loi 21. Ça le dérange profondément. Parce qu'il faut dire la vérité, Doug. Le nationalisme québécois conservateur de type un peu comme la CAQ aujourd'hui, c'est seulement sur ces questions-là qu'ils arrivent à se faire réélire. Ils n'ont aucune alternative en termes de projet de société progressiste. Ils jouent seulement sur la carte identitaire. Et cette question de la laïcité, elle est devenue tellement l'arme du soft power du nationalisme québécois que même le Bloc québécois, qui est à l'échelle fédérale, il fait de la protection du projet de loi 21, il fait sa campagne électorale sur la laïcité québécoise, alors que c'est un parti fédéraliste. Donc, je pense que le récit séculariste permet à certains nationalistes québécois de jouer sur la fibre de la protection de la majorité nationale et en jouant aussi sur les rivalités fédérales, provinciales, parce que les nationalistes actuellement, la frange de la CAQ, c'est cet élément-là qu'ils jouent, avec la clause dérogatoire et tout. Donc, ils essayent de montrer qu'une perspective critique de la loi 21, c'est une perspective multiculturaliste et tout. Donc, ils essayent de discriminer Bokra Manaï sur cette question-là. Voilà, c'est surtout cette raison-là, parce que la question de l'idéologie du sécularisme, si le nationalisme québécois perd l'argument de la laïcité et l'argument de la menace de la religion et du retour de la religion politique, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choses qui les distingueraient des autres partis en termes de...
C'est vrai, en fin de compte, on a des DG, des grosses compagnies comme Nordaire puis Pelledo en charge de tous les gros partis. Anyway, un autre côté qui m'a fasciné, c'est la communauté noire qui n'était pas tout à fait unifiée en arrière de son soutien à Bokra non plus. Il y avait la critique qu'elle n'était pas noire, ou critique auprès de la plante qu'elle a nommé quelqu'un qui n'était pas noir. Là.
Sincèrement, Doug, pour répondre à cette question, moi, j'ai fait mes vérifications. J'ai fait mes vérifications. Il n'y a aucun groupe noir qui s'oppose à la nomination de Bushra Manai.
Parfait.
Si tu es capable de me nommer un groupe noir, tu ne vas pas trouver. J'ai vu dans les chroniqueurs au Québec, que ce soit Émilie Nicolas, chroniqueuse au Devoir, des figures médiatiques qui jouissent d'une respectabilité. Je pense à quelqu'un comme Fabrice Ville. Il a également appuyé. Émilie Nicolas a appuyé. Woodstock à Montréal-Nord, le groupe Montréal-Nord-République a appuyé. La seule personne qui a tenu des propos que je trouve vraiment regrettables, c'est justement Balarama Holness, qui a donné une interview à CGAD, qui a dit la chose suivante, Doug. Et là, j'ai bien suivi la question, je veux bien te restituer son argumentation. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le poste de commissaire a été créé parce qu'il y a eu une consultation qui a été initiée par des groupes noirs. La consultation de la ville de Montréal a été mise sur pied, selon lui, à l'initiative de son groupe à lui. Donc, et le poste de commissaire a été créé suite à la consultation. Donc, lui, son argument, c'est qu'il devrait automatiquement revenir à une personne noire, à cause que les personnes noires auraient été à l'origine de la consultation qui a donné le poste. Est-ce que tu me suis dans son raisonnement?
Oui, je suis tout à fait d'accord.
Mais c'est une façon un peu simpliste de voir les rapports sociologiques de la société. Oui, il a été à l'origine de la consultation, mais la sensibilité, la sensibilisation, le travail contre-hégémonique sur la question du racisme, ce n'est pas juste cette consultation, c'est tout le travail qui existe dans la société et qui est mené par beaucoup d'organisations. Maintenant, Doug, je n'ai pas envie de répondre parce que je suis un peu embarrassé par un autre volet de la question. Moi, je pense aussi qu'il y a un choix électoral de Mme Plante en nommant Bushra Manai, qui était implantée à Montréal-Nord, qui travaillait à Montréal-Nord, qui a le soutien d'organisations importantes à Montréal-Nord. Et du fait que Denis Coderre, qui risque d'être son principal adversaire, a été un ancien de Montréal-Nord, justement, je pense que Mme Plante veut avoir le soutien de certains réseaux qui sont proches de Bushra Manai. Ça, c'est évident. Mais moi, ça n'invalide pas du tout la compétence de Bushra. Bushra, ses sensibilités à la question autochtone, les sensibilités de Bushra à la question noire, la sensibilité de Bushra au racisme sinophobe anti-asiatique, la sensibilité de Bushra à la question des femmes sud-asiatiques, la sensibilité de Bushra à la question de l'antisémitisme est réelle, je la connais personnellement. Je ne pense pas que Bushra va adopter une stratégie qui va seulement favoriser les musulmans. Ça, c'est faux. Ceux qui veulent mettre ça dans l'esprit des gens se trompent. Et je pense que Bushra, elle va tenir compte de la réalité des différentes minorités qui sont opprimées et pas seulement les musulmans.
Elle est beaucoup trop intelligente et stratégique à tomber dans ce piège-là.
Exactement, Doug.
Donc, dernière question. Et c'est ça. Bushra, si vous étiez dans sa poste, c'est quoi votre stratégie pour réussir?
Doc, mais là, tu poses des questions, toi, si j'étais dans son poste.
Ah ouais, j'aime bien sortir de ton poste académique et mettre dans le poste réel. Là.
Oui, écoute, ce que je sais, moi, je n'ai pas parlé avec elle. Hein. Madame la commissaire, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Donc, je ne connais pas exactement. Le vrai travail sérieux que je dois faire, Doc, maintenant, je dois me renseigner sur les prérogatives du poste. Quel est son mandat exact? Ça, son mandat, je dois bien le... Il faut que j'étudie exactement quels sont ses pouvoirs, quelles sont ses prérogatives. Mais ce que je comprends, ce qu'on m'a dit, pas de elle, mais ce que je sais de gens sérieux qui sont des sociologues qui suivent ces questions-là, je pense que Bushra a un mandat de 3 ans. Et son principal défi, ça va être de produire un plan d'action.
Ça, c'est la première année, si je comprends bien.
Oui, il va falloir qu'elle produise un plan d'action. Et le plan d'action, ben, il va falloir qu'on s'attaque véritablement, identifier les leviers de pouvoir, identifier les responsabilités en matière municipale, parce que son plan va seulement être pour l'échelon municipal. Hein. Ce n'est pas un plan qui va s'adresser au gouvernement du Québec. Son plan va être essentiellement pour les structures de la ville de Montréal. Maintenant, comment est-ce que ça va également toucher le gouvernement du Québec? C'est évident, parce que même si la loi 21 est une loi québécoise, la loi 21 s'applique également aux citoyens montréalais. Hein. Voilà. Donc, ça va être ça. Ça va être véritablement comment est-ce qu'elle va travailler avec les prérogatives limitées qui vont être les siennes et le plan d'action qu'elle va proposer, parce que les attentes sont grandes. Il y a la question des Premières Nations. Les Premières Nations, donc, ce n'est pas des immigrants. Hein, donc, le débat entre les...
Non, tout à fait.
La question autochtone, c'est un débat de nation à nation. Ce n'est pas un débat de majorité à minorité. Et oui, voilà, ça, elle a un gros défi pour cela. Et ce que je voudrais dire, Doug, qui est d'intérêt pour nos auditeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le poste que Bouchra occupe, c'est quand même le premier poste d'une responsabilité élevée pour une personne d'origine musulmane et maghrébine, et surtout africaine au Québec. Nous n'avons pas une personne issue de la diaspora africaine. Je parle des pays du continent, je n'ai pas dit afro-descendants, africaines qui occupent un poste de responsabilité aussi important sur un enjeu aussi capital. Donc, il y a aussi un tournant historique sur cette question-là. Et je pense que pour ces raisons-là, Bouchra a une responsabilité historique et elle incarne aussi un tournant historique du Québec. Et je pense que c'est de notre devoir à un mandat de suivre ces questions-là. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les populations noires à travers le monde, jamais elles ne se porteront bien tant et aussi longtemps que le continent africain ne sera pas fort géopolitiquement. C'est l'unité africaine, c'est l'organisation politique du continent africain qui fera en sorte aussi que les populations afro-descendantes seront respectées à travers le monde. Lorsque l'Afrique va se réveiller politiquement, les Africains vont arrêter de se faire mettre le genou à terre. Il y a un lien organique entre la situation des Africains à travers le monde et l'avenir du continent en termes d'organisation politique, de dignité et de mobilisation. Donc, on doit se mobiliser et non pas agoniser. Donc,
Mouloud, elle le croit à perfection. Merci beaucoup pour cette analyse magistrale.
On va
suivre ça avec tout intérêt et puis tout notre soutien. Merci beaucoup.
C'est un plaisir de parler avec toi, Doug.
Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow we do it. Somehow we've weathered and witnessed a nation that isn't broken, but simply unfinished. We, the successors of a country and a time where a skinny black girl descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge our union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put our future first. We must first put our differences aside. We lay down our arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing else, say this is true. That even as we grieved, we grew. That even as we hurt, we hoped. That even as we tired, we tried. That we'll forever be tied together, victorious, not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision that everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it. Because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. We've seen a force that would shatter our nation rather than share it, would destroy our country if it meant delaying democracy. And this effort very nearly succeeded. But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith we trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it we found the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, how could we possibly prevail over catastrophe? Now we assert, how could catastrophe possibly prevail over us? We will not march back to what was, but move to what shall be, a country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy and change our children's birthright. So let us leave behind a country better than the one we were left. With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. We will rise from the gold-limbed hills of the West. We will rise from the wind-swept Northeast where our forefathers first realized revolution. We will rise from the lake-rimmed cities of the Midwestern states. We will rise from the sun-baked South. We will rebuild, reconcile and recover in every known nook of our nation, in every corner called our country. Our people, diverse and beautiful, will emerge battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we're brave enough to see it, if only we're brave enough to be it.
We're gonna give the world a party.
Oh yeah.
No matter where you
Welcome back to Amanda at CKUT 90.3. And now I'll hand it over to Doug, who has a rant for us about what he calls the COVID apartheid. And I really cannot wait. So here we go, folks.
An international effort to share vaccines globally is picking up speed. The COVAX initiative announced plans this week to get more than 330 million vaccine doses to developing nations in the first half of the year. Here's the thing, that will cover less than 4% of the population of the countries on the receiving end. Ellen Johnson Sirleaf is a former president of Liberia and a Nobel Peace Prize laureate. She co-chairs the pandemic review panel at the World Health Organization, and Sirleaf warns the COVAX countries need to do more.
If they do not respond to the needs in Africa so that everyone has access in a reasonable period of time, they can be assured that they will also not be safe. This is an interdependent and interconnected world. They have to see vaccine as a global good to be able to save humanity, and humanity is worldwide. They cannot treat it as apartheid. It cannot say because you're poor, you will not be vaccinated, only the rich will be.
Madam President, it strikes me that that message is going to have to move fast and acted upon quickly, because it seems we've been talking about the inequities of who the pandemic impacts since the beginning of the pandemic and the vaccine inequity not long after. What will happen in the next year or so if wealthy countries continue to monopolize the vaccine supply?
If they do not protect the entire world population, COVID-19 is going to continue and will perhaps become even more deadly. They will not be able to stop the spread of this disease if they do not also secure for all the countries of the world.
Last month, you were very vocal in expressing your concern about collective leadership failures at the WHO at seemingly every turn during this pandemic. Since then, what signs have you seen that the global community is responding to this concern?
Let me just put an example of the change in the United States. Well, we see the Biden administration has done all it can to reverse negative actions that were taken by the former administration. And they have committed themselves to give full support to the WHO, to give the full funding, as had been the case before. We're seeing now that countries are now discussing about the COVAX facility, and more people are making financial commitments to this facility that will be able to purchase the vaccine for countries. Many countries, too, have been offering vaccines to countries. And some of it has to come from, you know, their own supply, but in which they think that they can address the most vulnerable. We see discussion going on right now in the Development Finance Institution, the World Bank, the IMF, the African Development Bank. But the vaccines are still held, you know, by the pharmaceutical companies, by the rich countries, and until they agree on the equity and then put these entities to work, we cannot leave Africa or any other poor country behind. This world is one world. Through travel, through interconnections of every kind, communication, and there is no one that can be safe in any powerful, rich country of the world, if you leave the poor countries behind, if they do not get vaccines, if they do not get responses in building proper preventions through their national healthcare system, then you can be assured that if another pandemic comes, it will not be those who now have vaccines and are vaccinated that will be safe.
Well, you've been especially outspoken about worries that COVID-19 vaccines will not be widely available in much of Africa until 2022 or even 2023. Why does sub-Saharan Africa seem to be at the back of the line?
Well, you know, vaccines are dictated by resources and authority and power. The rich nations have been able to buy the vaccines. They provided the research for the vaccines, and it's just commercial forces and resources.
So are you saying that until those things change, sub-Saharan countries and the less wealthy nations of the world are just always going to come last?
No, I'm not saying exactly that. What I am saying is that right now, the richer countries have the resources. They are buying the vaccines. They are ensuring that their citizens get vaccinated first. Some of them have reached out. There are countries with resources that are trying to buy it. I think South Africa maybe were to get 1 million vaccines, you know, through their own purchase. Some countries have been giving a limited supply to address particular health workers who are vulnerable. And so will it take 22, 23? We hope not. Just remember, and we want the world to remember, that vaccine has to be a public good.
Former Liberian President Ellen Johnson Sirleaf co-chairs the World Health Organization's Pandemic Review Panel. Thank you very much.
Thank you.
From PRX.
You know, I've been like most of you. I've lived through the COVID with great patience, respecting all the health guidelines and trying to be as safe and secure as I can to keep myself, my wife, and my people around me safe and secure. And I've had no problem with that. I can respect that, and I love it. But you've just heard former President of Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, who is co-chair of an independent panel reviewing the World Health Organization